Grand Angle.
Grand Angle sur Radio Orient. En Iran, alors que les tensions avec Washington ne faiblissent pas, la répression s'intensifie. Les exécutions à mort se multiplient, les journalistes sont emprisonnés, comme la photojournaliste Yalda Mouahiri, condamnée à 15 ans d'emprisonnement. Les artistes sont convoqués par les services de sécurité et les autorités judiciaires, et les cafés sont fermés. Pour en parler, notre invitée est Somayeh Rostampour, chercheuse au Centre de recherche sociologique et politique de Paris, spécialiste de l'Iran. Bonjour.
Bonjour.
Le régime iranien profite-t-il de la guerre pour réprimer la population ?
Oui, c'est un vide clair. Mais il faut mettre ça dans le contexte de l'Iran post-révolutionnaire et aussi dans le contexte de la violence impérialiste. Je veux dire que d'un côté, c'est pour le régime, c'est un régime qui a toujours gouverné à travers de la violence depuis le début de la révolution et notamment pendant la guerre de l'Iran et l'Irak, du coup 80-88, 8 ans de guerre, où même à la fin de la guerre et pendant 8 ans de la guerre, il y avait l'exécution massive des prisonniers politiques, notamment de gauche, dans plusieurs prisons en Iran, notamment à Téhéran. Du coup, c'est une histoire qui revient avec la guerre actuelle, à la fois l'histoire de l'invasion. À l'époque, c'était l'Irak. Aujourd'hui, on est face à une invasion impérialiste très violente de la part de deux puissantes mondiales assez importantes. Pourtant, ça ne nous empêche pas de voir les violences de deux côtés sans les mettre sur le même niveau. Le problème, c'est que ces bombes, non seulement ils ont pas libéré, ils ont intensifié la violence. C'était un cadeau pour le régime pour qu'il puisse faire tout ce qu'il pouvait faire avec plus de difficultés. Par exemple, exécuter de façon massive les prisonniers à la fois politiques et non politiques en Iran. Je vous décris une scène qui va nous aider de comprendre comment cette violence externe elle est liée de la violence interne et comment on ne peut pas dénoncer une sans l'autre et pourquoi il faut toujours dénoncer les deux en même temps. Au moment où il y avait, même après cesser le feu, il y avait l'attaque de États-Unis qui continue, notamment dans la région du sud de l'Iran. Du coup, il y avait cette attaque dans cette région qui est déjà pauvre à cause de la politique, on peut dire, discriminatoire du régime iranien face au peuple baloutche, parce qu'ils sont considérés comme une nation, un peuple inférieur, etc. Et c'était le même jour, je me rappelle très bien, j'appelle un ami en Iran parce que sa sœur, elle a été arrêtée, son frère a été arrêté et il a déjà un frère tué dont son corps n'a jamais été donné à sa famille. Du coup, je l'appelle pour dire que je suis contente que finalement ta sœur et ton frère, ils ont pu même temporairement libérer en attendant leur jugement. Bah, elle m'a dit, on est contente, mais son frère, qu'elle a juste 22 ans, elle a été fortement torturée de la façon dont, pour quelques semaines, il ne pouvait pas bouger. Et il était sans mouvement. Elle avait perdu la conscience pendant 2 jours sous la torture, etc. Du coup, on est aussi dans le contexte de retour sur les tortures, qui était un peu mise en pause de façon systématique après les années 88, du coup après les massacres des prisonniers politiques et les fosses communes de ces années-là, mais qui sont revenus souvent avec les révoltes, qui sont venus avec les arrestations de chaque révolte. Et là, c'est revenu systématiquement, mais notamment dans les régions périphériques comme Kurdistan, Baloutchistan, etc. La vie, elle devient très difficile pour les gens. D'autant plus pour du coup la population de classe inférieure, etc., qui avait déjà un grand problème. Et c'était pour cette raison-là qu'ils étaient dans la rue le mois de janvier. Mais maintenant, ça devient de plus en plus critique. C'est vrai que c'est un régime qui est sous les sanctions. Du coup, les sanctions, il intensifie ce contexte économique critique. Mais il faut ajouter à cela la corruption et aussi la monopolisation de l'argent et la richesse du pays dans les mains de quelques familles très militaristes, aussi proches de noyaux militaristes de régime. Du coup, l'argent, il n'arrive pas vraiment dans les poches de gens.
Oui, on a eu beaucoup d'échos de la paupérisation de la population iranienne, surtout les derniers mois, où l'inflation est particulièrement terrible. Somaïa Rostampour, vous avez parlé des exécutions. L'organisation Iran Human Rights, basée en Norvège, a annoncé dans un rapport publié le 6 août dernier que l'Iran avait exécuté au moins 444 prisonniers entre le début de l'année et fin juillet. Il y a aussi les emprisonnements. Les artistes, les journalistes sont particulièrement visés. Je l'avais dit en introduction, Yalda Mouhairi, photojournaliste, vient d'être condamnée à 15 ans d'emprisonnement. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous connaissez son parcours? Et est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui le symbole de cette répression?
Bon, on la connaît parce que c'est un photographe qui a photographié aussi pendant le mouvement Femmes de Liberté en 2022, qui a été arrêté à un moment donné et jugé aussi, qui a été libéré plus tard, etc. Du coup, on connaît, c'est quelqu'un, c'est un photographe assez engagé. Mais je veux dire qu'il y a tellement de gens comme elle, peut-être vous l'avez entendu parler parce que ça a été médiatisé. Il y a déjà beaucoup de gens dont leur parcours n'a pas été médiatisé, mais leur parcours est aussi, la répression, c'est aussi violent vis-à-vis de ces gens-là. Par exemple, vous entendez très peu sur les gens qui sont arrêtés en Baloutchistan, au Kurdistan, à Lorestan ou dans des autres régions périphériques de pays, parce que tout simplement, il ne s'agit pas des personnes connues qui peuvent facilement être médiatisées, mais ils prennent aussi des peines très lourdes, souvent plus de 10 ans, 15 ans. 22 ans, là, je connais une coiffeuse au Kurdistan, tu vois, qui est vraiment, qui n'est même pas militante. Elle avait 5 ans de la peine de 5 ans de prison, tu vois. Du coup, on a tellement de gens comme elle, malheureusement, que ça devient compliqué d'avoir juste quelques personnes comme icône de cette répression, parce qu'il y en a plein, il y en a des dizaines, des centaines même, pour ne pas parler des milliers, parce que rien que après la révolte au mois de janvier, il y avait 20 000 d'arrestations pendant cette révolte. La plupart, ils restent en prison. La plupart, en fait, j'ai parlé avec un ami qui vient de sortir de prison. Il m'a un peu décrit la situation des prisonniers dans le prison, dans cette prison, du coup, à Téhéran. Il me disait qu'il y a énormément de personnes arrêtées pendant la révolte du mois de janvier qui sont encore en prison, qui sont très jeunes et souvent pas militants et qui subissent vraiment les différents types de tortures, parfois légers, parfois plus graves, etc. Du coup, on est dans un contexte de violence très élargi et l'expansion de cette violence dans les prisons, dont c'est difficile de dire qu'il n'y a que quelques personnes, mais c'est vrai que ces personnes-là, ils ont aussi parfois des peines très lourdes pour donner les leçons aux autres et pour leur donner comme exemple, comme quoi si vous bougez, le lendemain, vous allez avoir les mêmes difficultés.
Et les dernières semaines, des dizaines de cafés et de restaurants ont été fermés dans le centre de la capitale, Téhéran, notamment dans le quartier de Sanaï, très fréquenté par les jeunes. Quelle est l'ambiance
Oui.
dans la capitale iranienne? Est-ce que vous avez des échos de ce qui se passe? Et est-ce que les lieux de rencontre des opposants ou de ceux qui tout simplement se méfient du régime sont maintenant totalement privés, cloisonnés?
Oui, du coup, il s'agit d'un régime de surveillance, même dans la quotidienne des gens, qui vont jusque les chambres quotidiennes des gens. Tout est surveillé, l'espace public, mais parfois aussi l'espace non public, on peut dire de différentes façons. Mais ce qui est clair, c'est que la société, elle lâche pas et il continue à résister. Et cela est notamment l'héritage du mouvement Femmes et Liberté, parce que depuis 2022 et ce soulèvement révolutionnaire, qui était aussi un soulèvement qui venait des pays, des régions périphériques comme Kurdistan et Baloutchistan, mais aussi qui a porté avec lui, du coup, des slogans féministes et aussi des revendications féministes, y compris contre le voile obligatoire, j'insiste, obligatoire, et c'est pas contre le voile. Et du coup, ce mouvement, il a laissé ses traces, même aujourd'hui, dans la société. Et depuis, les femmes, ils n'ont pas reculé et les jeunes non plus. Pendant Femmes de Liberté, il y a même des adolescents, des élèves qui ont rejoint le mouvement et toutes ces traces. Moi, j'ai mes sœurs, ils sont profs. J'ai des témoignages de ces élèves toujours au lycée, au collège, etc. À quel point ils sont rebelles et ils sont vraiment contre ce système politique mis en place et ils l'acceptent plus, beaucoup plus que notre génération. Et ce qui fait que finalement, le régime, il peut pas arrêter tout le monde dans la rue, il peut pas arrêter l'enfant dans jeunesse, en génération dans la rue, du coup, il est obligé de reculer sur certaines choses, et du coup, y compris sur les habillements de la jeunesse, sur les lieux de rencontre, comme vous l'avez décrit, il n'y a pas, tout comme alcool est interdit dans l'espace public, tout est interdit. Les gens, ils font de façon clandestine, ou parce qu'il y a certaines tolérances, parce qu'ils ne peuvent pas tout arrêter. Et dans ce contexte-là, les gens, ils s'imposent. Et ce quartier de Sanaï, c'est parmi les quartiers vraiment très fréquentés par la jeunesse de classe moyenne, qui a plus de difficultés parce qu'elle se compare avec la jeunesse du monde entier, parce qu'elle a l'accès à l'Internet, etc., qui a du mal à accepter du coup ces surveillances et ce style de vie imposé par le régime, assez loin de la réalité et tout ce qu'il souhaite comme génération. C'est pour ça que finalement, il y avait, depuis le cessez-le-feu, en fait, il y a la répression pour arrêter les gens, mais il y a aussi la répression dans la rue, c'est-à-dire il y a les surveillances des habillements qui revient, il y a la police de mort qui revient dans certains quartiers des grandes villes, y compris Téhéran, Machhad, Hameddan, mais aussi par exemple dans les quartiers comme Sanaï, que vous avez décrit, Haftetil et des autres, où elle arrête parfois de façon arbitraire les femmes, ils alertent les gens du coup sur leur habillement, leur comportement, etc. Et là, ils ont commencé, il y a une vague des fermetures de cafés, parce que c'est les seuls lieux où les jeunes ils peuvent fréquenter et être libres. Ils sont souvent dans ces cafés sans voile, avec leurs copains, copines. Ils organisent des rencontres entre eux, elles, du coup, dans ces lieux qui sont un peu comme des lieux de refuge par rapport à la surveillance politique du régime.
Soumaïe Rustampour, on retiendra la force de cette jeunesse qui lutte malgré la répression du régime. Merci à vous pour votre témoignage.
Merci à vous.
Soumaïe Rustampour, chercheuse au Centre de recherche sociologique et politique de Paris, spécialiste de l'Iran. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver ce podcast sur le site de Radio Orient ou sur Spotify.
C'était Grand Angle.